comment on va faire, et ils ont mélangé le poumon. Il dit, il n'y a pas de danger, je vais vous laisser parler tous. Et il dit, les poumons, les moutons en larmes, et il dit, les poumons, les moutons, pas ça. Et les poumons, après la chrétage, oui, sont purs de toute tache de sang, c'est-à-dire propres. Alors que les poumons, les moutons en larmes, étaient violacés, il y avait une révolution sans limite, parce que la chrétage est très, très différente. Alors c'est pour ça, comment tu fais? Tu sais pas bien expliquer comment tu fais. Et il leur dit que l'animal meurt dans les soubresauts de l'homme de sang et avale son propre sang. Tandis que nous faisons, nous, le sang va et il perd connaissance tout de suite dès le moment de l'homme. Et alors, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu accolé. D'abord, ce n'était pas la même chérita. Et alors, ils ont une coutume assez extraordinaire qui m'a beaucoup impressionné. Quand ils attrapent le mouton pour faire la chita, le mouton se débat terriblement. Et d'après la chajoui, si le mouton se débat au point qu'on peut, ou la bête se débat, on ne la laisse pas. Et alors, finalement, ils arrivent à l'attacher. Et avant de faire la chita, il lui tourne la tête du côté de la Mecque et il lui parle à l'oreille. Et j'ai vu ça, là, je fais le témoin. Et alors, le mouton se calme. Alors, lui, il m'a dit, qu'est-ce que tu lui dis? Alors il dit, eh ben, je lui explique ce qui va se passer, il va être abattu suivant la volonté de Dieu et de son prophète et que son âme ne se retrouvera au paradis, alors il parle du bon, et ça je peux vous garantir, je ne sais pas comment ça marche, mais j'ai vu que le mouton se calme. Il y a une chose. Et alors le mystère, bon, à partir de ce moment c'est une blague, mais le mystère c'est comment le mouton comprend la larme.
Mais probablement.
Non, je crois que le seul geste, non, le seul geste de l'apaiser, c'est l'apaiser. Mais peut-être que la réponse, c'est que c'est l'arabe qui comprend le mouton. Et alors là. Ça m'a rappelé quand j'ai vu cette scène, ça m'a rappelé. Vous savez d'ailleurs que les arabes pieux. N'achète pas la viande chez les chrétiens, ils nous achètent dans la boucherie. Ça vous explique le volume du budget de la cachoute. C'est énormément d'arabes à chercher. Non, ils sont sûrs que c'est caché. Ils savent que la cachoute des juifs garantit la sécurité. L'inverse n'est pas vrai, on ne peut pas manger leur cachoute, mais que la nôtre est. Alors là. Ils ont la bouche au problème. Non, voilà, à quoi ça m'a fait penser quand je me rappelle de cette scène. Il y a très longtemps, mais ça m'est resté vraiment dans la mémoire. Et Harry, un des grands kabbalistes de sa fête, avait une fois donné cet enseignement à ses élèves. Il dit, quand on va arracher un épine, il ne se sort pas. Mais si on va prendre une bête pour la manger, il se sort. Oui, à quoi je reviens cela? Le mouton ne voulait pas se laisser faire, mais il lui a parlé, etc. Et alors, il a expliqué de la manière suivante. Il y a des niveaux d'être, passent de degré en degré par la nourriture. Et alors, lorsqu'un végétal est mangé par un homme, il est sûr qu'il passe de degré. Mais lorsqu'un animal est mangé par un homme, il n'est pas sûr après lui. Si c'est un homme vraiment, un kamikraha, alors oui, il va monter de degré. Mais si c'est une bête comme lui, il n'arrive pas. Parce que ça sert à rien. Et d'où il y a une règle dans la malade, c'est que, en principe, manger de la viande n'est permis qu'à un tabou. Parce que là, il y a vraiment une différence avec l'animal. Que si c'est un amaret, ça devrait être interdit. Sauf le Shabbat, parce que le Shabbat, tout le monde a une âme supplémentaire. Alors c'est la raison pour laquelle finalement la règle, c'est que dans tous les cas, s'il y a parmi nous des gens qui ont une tendance au végétarisme, que le Shabbat, pour manger de la viande et du poisson. Le reste de la semaine, il n'y a pas d'obligation. On ne change pas. Voilà la règle. Bon, alors je reviens à notre problème. Donc vous voyez qu'il y a deux processus. Il y a deux processus pour ce problème du sang. Premièrement, il faut que la bête meure en perdant son sang, sinon elle est déclarée nevela, c'est-à-dire charogne. Deuxièmement, le sang qui est resté dans la chair doit être évacué par l'eau et le sel. Si je suis là, je vous institue des règles de détail. Il y a un cas particulier en ce qui concerne le froid. Alors, je vais vous expliquer en détail le problème pour le froid. Comment on rend cachère un froid. Oui. Bien, voilà. Alors, pour le froid, la cachérisation ne se fait pas à l'eau et au sel, mais au feu. Voilà la règle. Il faut le passer au feu. Au feu. Grillé, pas grillé, passer au feu. C'est-à-dire, si vous voulez un foie cuit, pas grillé, mais cuit, il faut avant de le faire cuire, le passer au feu quand même. Et alors, on a l'habitude de saupoudrer un peu de sel. Avant de le passer au feu, il faut passer au feu de l'eau. Oui, pour que ce soit au contact de la flamme. Attendez, si vous faites griller au contact d'une plaque chaude, il faut d'abord cachériser la viande. C'est-à-dire la passer dans le sel. Et si vous voulez mettre le steak caché, par exemple, on met sur des plaques. Alors il faut d'abord que la viande soit cachée. Parce qu'il faut que les gouttes de sang tombent.
C'est sur un
grill,
j'ai cru.
Qu'est-ce que c'est pas un grill?
Comme une.
Tu vas mettre
le feu
là. Si le sang s'écoule, c'est comme un grill. Si ce contact du feu, ça.
C'est pas contact direct du feu, c'est-à-dire qu'il y a le contact de la plaque d'abord longue et en.
C'est dans tous les cas, il est passé à la flamme. Soit il est plié, soit si vous voulez le faire en tailler, je peux vous faire ça en radis. À la vue, vous pouvez le faire. Mais jamais on met le foie à l'eau et au sel. Au feu d'abord, qu'est-ce que c'est? Voilà, il y a une raison beaucoup plus profonde. C'est qui se rattache au fait même de la nourriture. Pendant la nourriture, premièrement, ce qu'on a déjà étudié, je constitue ma personne, le ochel devient mon nefesh, mais pendant ce temps, je fais monter à un stade supérieur du niveau d'être un être qui était à un stade inférieur. Okay. Alors ça c'est une mitzvah. Le jour du Shabbat, nous aurons une neshama supplémentaire. Donc le jour du Shabbat, la neshama est plus que le Shabbat. Et par conséquent, elle a cette mitzvah de faire passer plus haut l'être du monde. C'est-à-dire, c'est absolument interdit, sauf une exception, mais je n'en parle pas, de ne pas manger Shabbat. Bichlal, il faut manger Shabbat. Et il y a mitzvah de manger et de la viande et du poisson. Non. Même quand on est en train de deuil, ça reste Shabbat. Il n'y a pas de deuil Shabbat. Ça n'existe pas, ça, un deuil Shabbat. Mais il y a un cas particulier et on permet à certains de jeûner un jour de Shabbat une fois dans leur vie. Mais je dis ça parce que vous risquez de l'entendre. Ça existe. Mais Bichlal, n'importe quel deuil, de n'importe quelle sorte que ce soit, est le même. Okay. Le Shabbat est une mitzvah extrêmement forte qui passe sur toutes les autres, sauf dans tel ou tel cas précis qui s'est dit. Mais le deuil le plus grave est avec le Shabbat. Par exemple, le jour de la commémoration, tiens, cette année ça a été comme ça, la commémoration de Shabbat, c'est une affaire. Si ça tombe Shabbat, on fait Shabbat normalement. Et non seulement normalement, il y a toute une étude du Shulchan Aruch que ce Shabbat-là, il faut être le plus réjoui possible, bien que ce soit en principe le jour de Shabbat. Pourquoi faire comme si on a pris quelques règles de l'Éthiquette, et le lendemain, on prend le deuil. Mais Shabbat, ça passe avant. Alors, voilà ce que je voulais vous ajouter. Donc, pour le foie, si on prépare une tête ou des pieds, il faut d'abord les casser, les ouvrir, de telle sorte que l'eau et le sel pénètrent à l'intérieur. De la même manière pour une volaille, lorsque vous la passez avec le sel, il faut aussi saler dedans. Et maintenant, un œuf qui n'est pas encore pondu est considéré comme viande et pas comme œuf. S'il n'est pas encore pondu, et même s'il a sa coquille, okay, on va trouver dans le ventre de la poule. S'il a été pondu, il n'est ni viande ni lait, il est neutre. Mais s'il n'a pas encore été pondu, il est considéré comme faisant partie de la mère, c'est-à-dire viande. Alors, si vous trouvez une goutte de sang dans un œuf, alors, en principe, il faut jeter l'œuf. Maintenant, si vous voulez faire des économies, alors il y a une tolérance qui est qu'avec un chiffon ou deux couteaux, on essaye d'enlever la goutte de sang. Si elle s'enlève, sans que l'œuf s'ouvre, l'œuf on peut fondre. Si l'œuf s'ouvre, on peut fondre. Et puis j'ajouterai encore les mamelles doivent être ouvertes et vidées de lait avant d'être passées à l'eau de l'autre.
C'est plus compliqué à
séparer, je crois. Oui, mais c'est probablement la viande la meilleure. Comment ça s'appelle ça en français, la tétine.
C'est délicieux.
Bien. Et d'autre part, ce que je voulais ajouter, c'est que le sel du lavage et du salage ne doit être ni trop fin ni trop gros. Ni trop gros ni trop fin. Il ne faut pas prendre du sel fin. Il ne faut pas prendre non plus du sel trop gros, parce que c'est le sel qui va ouvrir les vaisseaux à lâcher le sébum. Et ce sel-là, bien entendu, n'est pas caché. Alors, les ustensiles dans lesquels on fait la cachérisation, comme on dit maintenant en français, sont à ouf. Les ustensiles ne peuvent pas être ni le couteau dont on se sert, ni la bassine dont on se sert, on s'en sert pas pour cuire. Parce que c'est à ouf, puisque la viande n'était pas encore cachée. Bien. Alors, je continue les 30 règles, et je vois qu'on n'aura pas fini de passer. D'autre part, troisième grande règle, interdiction de la graisse. Alors, je vous ai déjà dit ça. Il y a deux sortes de graisse. Celle qui s'appelle Khelev, pas Halab. Halab, c'est le lait. Khelev, le même lait, mais avec ses bols. Khelev. C'est la graisse de déchets qui s'attache au tube digestif, à tous les organes du tube digestif. Cette graisse-là, elle doit être évacuée. Je vous explique cela parce que la viande que vous achetez à la boucherie est déjà préparée avec toutes ces prescriptions-là. Parce que c'est les spécialistes qui savent qu'est-ce qu'il faut enlever comme graisse. Tout ce qui est de l'ordre du déchet dans le corps animal est interdit, ça va avec la graisse de déchet. Mais le gras qui s'attache à la viande, comme lui, chémène, ce gras-là est permis, mais la graisse de déchet est interdite. Et alors, il faut faire très attention. Lorsque vous avez des morceaux de gras, vous les coupez pour voir s'il n'y a pas des nodosités, comme on appelle ça, des petites boules à l'intérieur duquel il y aurait des insectes, des parasites. Okay. Alors, toutes ces petites boules doivent être rejetées. Alors, là, avec cette même... règle, l'interdiction des ongles, des poils, des cornes, enfin de tout ce qui est de l'ordre du déchet. Mais quel est le principe? Ce qui est déjà complètement devenu, c'est impur. Ce qui est encore devenu, c'est à l'intérieur de la bête cachée elle-même, à l'intérieur de la bête pérora elle-même. Quatrième règle, c'est l'interdiction des parties des nerfs qui innervent les organes sexuels. On appelle ça le nerf sciatique et c'est très très mal défini. Okay, il ne s'agit pas du nerf sciatique, il s'agit du nerf qui innerve les organes sexuels. Et vous comprenez pourquoi? C'est les organes sexuels qui élaborent la spécificité du nerf pêche. Le plus tamé qu'il y a dans la bête, c'est les organes sexuels. Les nerfs qui innervent les organes sexuels. Alors ça, je vais vous expliquer. C'est la raison pour laquelle dans beaucoup de communautés, on ne savait plus comment dénerver ce qu'on appelle ça, cette opération qui s'appelle le nicour, le nacre, enlever les nerfs. Il y a aussi certaines parties, ça, Claire vous apprendra quand on le montrera, dans les oiseaux, donc les poulets, il y a certains... partie d'organes qui doivent être enlevées. Oui. On montrera très exactement de quoi il s'agit. Oui. Certains ligaments qui doivent être enlevés parce qu'il est là de nouveau ces critères que c'est dans ces organes-là que s'élabore le néphèche spécifique de chaque individu. Ça s'appelle le nicour. Alors dans les communautés, on ne savait pas faire le nicour. Toute la partie arrière de bête était interdite. On les vendait au régime. Mais si vous êtes assuré qu'une boucherie achète sa viande dans un abattoir, on sait faire ça, alors les parties arrière sont permises si on a enlevé les nerfs. Où est-ce que vous êtes? C'est-à-dire, par exemple, vous avez pu entendre cela, mais ce n'est pas exact que le gigot est interdit. Non, le gigot n'est pas interdit. C'est un gigot qui viendrait d'une cuisse dont on n'a pas enlevé les nerfs. C'est une savon d'air, c'est une savon d'air. Bon, parce que il ne sait pas comment faire, tout simplement, il faudrait qu'il fasse venir un chochet qui sait le faire et qui le lui énerve, vraiment, comme il faut le payer. Alors, il... Tiens. Et puis, je veux dire aussi, des fois, les habitudes sont prises. Dans des communautés, pendant des siècles, on ne savait pas. Alors, il y a cette habitude. On ne veut pas chercher à comprendre. Chez nous, on ne mange pas la cuisse. On sait très bien que c'est à cause qu'on ne savait pas enlever les nerfs. Mais puisqu'on s'est habitué à cela, alors même si on suit, on pourrait le faire parce que quelqu'un sait le faire. L'habitude a pris le pas et on garde la coutume de la famille ou la coutume.
Mais la coutume, c'est la règle générale, c'est la semaine dernière.
Probablement, ça dépend de quelle commune. Mais en fait, par exemple, je me souviens très bien, en attendant l'Algérie, le chevratine savait faire ça. Et au Maroc aussi. Et par conséquent, il n'y a pas de problème. Bon. J'en profite d'ailleurs pour vous parler d'un autre point. C'est que vous entendrez dire qu'il y a deux cacheries différentes. Bon, je ne sais pas comment on dit ça en français, strictement cachère et strictement machin basé. La maquette. Alors, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Et puis, on s'arrêtera la poésie, il restera encore le lait et la viande. Et le vin. C'est assez extraordinaire. Hier, à propos du vin, hier encore, j'ai eu un renseignement supplémentaire sur la fabrication industrielle du vin, et qui confirme ce qu'il y a à certains enseignements. Enfin, je reviens à nos problèmes. Je ne sais pas si on va avoir le lendemain. Voilà de quoi il s'agit. Dans tous les cas, après la shrita, on doit vider la bête des organes digestifs et respiratoires, et en particulier les poumons. Or, il y a chez les mammifères des maladies du type tuberculose qui peuvent se résorber et créer des adhérences aux poumons, des espèces de petits sacs d'adhérence. Et alors, la règle générale pour savoir si la bête était saine, n'a pas été tuberculeuse, même si elle a été tuberculeuse, elle est complètement guérie, donc elle est saine, elle peut être mangée, elle ne tomberait pas dans le cas de Nevella, c'est que si on inspecte le poumon, et si on trouve des adhérences, on les touche, si elles tombent toutes seules, ça veut dire qu'elles sont suffisamment secs, sèches, et que c'est le signe que la bête est saine. Si elles ne tombent pas, on déclare la bête tombe. Ça, c'était dans les communautés où il y avait la possibilité de vendre la bête au blé. Alors, dans les communautés, la shrita est ainsi. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait une adhérence pour qu'on rende la bête tabouf. C'est ça cette cacheroute, soi-disant au second degré, qu'on appelle glad cachet. Dans les autres communautés, où il y avait une difficulté, donc les bouchers et puis les risquaient de faire faillite à chaque abattage, parce qu'il y a énormément de bêtes suspectes de ce genre, alors les rabbins ont institué le principe suivant. On soufflait, ça s'appelle la néphira. On souffle dans le poumon, si le poumon gonflé d'air montre un trou, on déclare la bête taroud. Si il n'y a pas de trou, on la déclare cachère. La glace cachère, c'est quand on n'utilise pas ce procédé. Comprenez? D'emblée, on déclare pas cachère. Est-ce que c'est clair? Je viens d'expliquer, vous avez compris tout de suite. Faites attention à ça. La deuxième cacheroute est absolument cachère aussi. Sinon, on ne l'aurait pas autorisé. On connaît bien. Et alors, je me souviens par exemple, quand. Je ne sais pas si je vous ai dit, mais enfin, j'ai dû passer mon baccalauréat au Maroc. Je suis le baccalauréat marocain. Cousins. Parce qu'en Algérie, c'était constamment Shabbat. Alors, je n'arrivais pas à passer le bachot. Finalement, quelques jours avant une séance, je vois dans le journal, là où je vais, les épreuves commencent un lundi matin. Et on était vraiment lundi matin, je rappelle. J'arrive à faire transférer mon dossier parce que j'écris à Bouddha et l'oral rabbin. Quand elle en géographie, je suis bien allé parce que la prof, c'était l'académie de Toulouse, Bordeaux, par exemple, qui me dit décrivez-moi une étiquette de bouteille de champagne en géographie. Décrivez-moi une étiquette de bouteille de champagne. Moi, j'avais jamais vu une bouteille de champagne, c'est pas vite. Alors j'ai expliqué, vous savez, chez nous on ne croit pas ça. Ah, pourquoi? Ben parce que nous sommes là. Ah bon, expliquez-moi. J'ai eu l'insulte. Ça y a fait un peu. Bon, je reviens au problème. En Algérie, on mangeait plat cachère comme ça. C'est-à-dire que toutes les bêtes qui avaient une adhérence au poumon, on pouvait les écouler dans les abattoirs d'oreilles. Donc il n'y avait pas de problème. Alors qu'au Maroc, c'était beaucoup plus difficile. Et ce qui fait que, lorsqu'on allait au Maroc, on avait le droit de manger que les petites bêtes, pas les grosses. Ça joue que sur les gassotes, pas sur les. Et ça, je me rappelle très bien. Et puis, ce qui fait que, pour rester fidèle à la discipline qu'on avait et les règles de la cacheroute, alors on ne mangeait pas de viande au Maroc. Ça ne voulait pas dire que la viande du Maroc n'était pas cachée. Vous comprenez, c'est clair. Je me souviens d'ailleurs que quand j'habitais Paris, mon père était encore à Algérie, quand il venait à Paris, chez moi, il ne mangeait pas de viande. Mais ça ne voulait pas dire qu'il considérait qu'il mangeait la cachette, qu'il mangeait la viande de Paris. Alors la règle, c'est qu'on mange la viande de la communauté dans laquelle on se trouve. Toutes ces histoires, ah ici c'est cachère, là c'est pas cachère, tout ça c'est des histoires de fou. C'est partout cachère. Mais à partir du moment où on a une certaine fidélité de discipline, on n'en change pas. Est-ce que vous avez compris le coup? C'est parce que vous risquez d'entendre cela. Je vais l'expliquer jusqu'au bout. C'est que si vous vous affiliez à une communauté dans la boucherie, ne mange que la viande black, c'est comme si vous avez fait le vœu de ne manger comme ça, que comme ça toute la vie. Vous comprenez? À partir de ce moment-là, vous ne pouvez plus changer de cache-route, mais ça ne veut pas dire que notre cache-route n'est pas cachée. C'est ça que je voulais dire. C'est clair. Alors c'est la raison pour laquelle ce n'est pas conseillé de s'affilier à une boucherie plate, parce que c'est comme si on fait le vœu de mais après on est embêté parce qu'on arrive dans une ville, il n'y a pas de blague cachée en ce moment. C'est-à-dire, mais pas passer par cachère, parce qu'on a fait un vœu.
Hein?
Là, on n'aurait pas le droit si on prend les choses au sérieux. Alors il vaut mieux ne pas prendre le vœu de manger la blague cachère. C'est-à-dire cette blague cachère, elle est aussi cachère pour les autres. Alors on peut la manger, mais sans faire le vœu de ne manger que comme ça. Bien. Est-ce que c'est compris?
J'ai
compris.
Plat,
c'est un mot yiddish. C'est un mot yiddish qui signifie respecter le poumon. Mais il est bien évident qu'aucun tribunal rabbinique pourrait déclarer qu'une bête est cachère si il y avait un doute que ça puisse ne pas être cachère. Simplement, comme c'était des pays où il y avait une plus grande difficulté d'écouler les bêtes tabou. C'est-à-dire la place cachère, c'est une khumra. Khumra, ça veut dire une aggravation de la loi. On raconte du gomme de l'Ina. Un jour, il a eu à. Et puis on va s'arrêter là, je suis déjà près de 10 heures. En rentrant dans le Vilna, qu'un jour il a eu à trancher sur un problème de cacherie. Il y avait un chevillard, qu'on appelle ça un chevillard, hein, des marchands d'astuces. Un chevillard qui avait une fille à marier, et puis finalement, la veille d'une fête, qui est faite au Vilna, les trois quarts du troupeau qu'il a donné à l'abattoir ont été rendus par lui. Et alors, il était ruiné, il ne pouvait pas marier sa fille. Et alors, le Bédine a déclaré, c'est ça, vous. À cause de cette histoire de blague, pas blague, c'est bon, voilà. Alors il était complètement perdu, il est allé voir le grand de Vina, qui n'était pas le rabbin officiel de la ville, mais le grand haram de la ville. Et il a expliqué son histoire, le grand de Vina a demandé à ce qu'on lui apporte le poumon, les charabins sont venus, ils ont étudié le cas pendant 10 heures. Au bout de 10 heures, il a dit non, c'est caché. Il veut vendre les bêtes et donner l'argent au chef. Alors le rabbin lui dit, mais il y a pourtant écrit là que ça. Il a dit, tous ceux qui ont écrit ça, avec eux, je peux m'arranger au jugement dernier. Mais ce juif là, s'il n'arrive pas sa fille, je ne m'arrangerai pas avec lui. Fais bien attention que c'est caché, vraiment. Seulement, il y avait des règles de discipline. Vous voyez qu'elles étaient. Bien. Alors, ceci dit, Shabbat Shalom, mais alors en principe, donc dimanche soir, on va dire là.